Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Yannick Bouchard.
Et on commence l'émission en force avec un invité que j'affectionne particulièrement pour ses propos pertinents et éclairés. Il a un regard très très averti sur la scène du monde du sport, que ce soit ici à Montréal, au Québec ou encore partout sur la province. Un grand amateur de basketball. Il aimerait ça qu'une équipe de basketball vienne s'établir ici à Montréal. Je vous présente Michael Fortier, qui est ancien ministre fédéral et vice-président du conseil de RBC, qui passe l'heure avec nous. Je l'ai même dérangé en vacances cet été dans le Maine pour l'inviter, puis il a accepté tout de suite. J'étais bien flatté d'avoir sa réponse immédiate. Monsieur Fortier, c'est un plaisir de vous accueillir aux amateurs de sport.
C'est très gentil de m'inviter. Ça m'a fait plaisir de dire oui. Je gagne ma vie en finance, mais la vérité, c'est que si j'avais pu gagner ma vie dans le sport comme vous, j'aurais probablement préféré ça.
Vous êtes un grand amateur de sport.
Oui.
Et de tous les sports. Et juste mentionner et rappeler aux auditeurs que si vous avez une question, par exemple, ou un commentaire pour M. Fortier, allez-y sur la messagerie texte 98985. Vous allez voir, il y a une expertise quand même assez large de la chose. Si vous avez un questionnement sur le côté business, sur le pourquoi d'une situation, il va peut-être avoir un élément de réponse à vous donner, donc 98985. Donc, je disais que vous êtes un grand amateur de sport et un amateur de sport assez large. Là. Vous aimez tous les sports.
C'est-à-dire que oui, je suis assez curieux. J'ai essayé aussi d'instaurer cette curiosité-là à mes enfants. Parce que tantôt, vous parliez de je ratisse large. Là, je suis en train d'installer à ma maison dans le Maine, un jeu de pickleball, un terrain de pickleball.
Ah oui?
Oui. et je sais que si je vais faire rire les gens, puis je vous comprends de rire dans votre auto, là. Pickleball, savez-vous quoi? Au début, moi, je trouvais ça têteux. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait au pickleball? Mais vous pouvez pas comprendre jusqu'à quel point c'est rassembleur comme sport. Je sais pas si vous avez déjà joué.
Ben oui, certainement. Okay. C'est comme donc, un terrain de tennis, finalement.
Beaucoup plus petit. Les raquettes sont beaucoup plus facilement maniables. Donc, c'est vraiment accessible à tous les groupes d'âge. Et c'est très compétitif. Moi, je viens d'une famille compétitive, puis j'ai eu des enfants qui sont tombés pas trop loin de l'arbre, puis il y a des amis qui embarquent là-dedans. On a un fun fou. Donc oui, m'intéresse. Moi, j'ai beaucoup suivi le baseball cet été, mais je m'intéresse aussi maintenant au pickleball.
Alors, puis là, est-ce que le terrain est installé? Là, tout est correct?
C'est-à-dire que là, j'ai un terrain de basket où j'avais comme organisé des lignes que j'avais faites moi-même. Mais là, cette semaine, j'ai fait venir quelqu'un qui va m'installer des lignes, des vraies lignes, un vrai terrain. Parce qu'avec certains de mes enfants, on avait des disputes sur est-ce que la balle était bonne, était pas bonne. Alors, à partir de bientôt, là, on va avoir des lignes, on va avoir un terrain qui va rencontrer les normes.
Alors, le sens de la compétition bien installé chez les Fortier, si
oui,
je comprends bien.
Oui, hein?
Et ce sport-là, M. Fortier, je dirais que ça aussi, ça ratisse large parce que pour les plus jeunes, mais également pour les personnes plus âgées.
Oui, oui. Et moi, je pense pas que je suis dans ce groupe-là.
Non, mais je parlais pas de vous, mais je veux dire.
J'ai des voisins dans le Maine, justement, qui ont des terrains, puis c'est des gens un peu plus âgés que moi. Puis c'est un peu eux qui m'ont montré ce sport. Ils jouaient et ils m'ont expliqué qu'il y avait des ligues. Ils passent du temps en Floride, donc en Floride, ils jouent beaucoup. Bref, à force de jouer, même avec mes plus jeunes enfants, on a un plaisir fou. Et moi, c'est ce que je trouve d'important dans le sport. Oui, on peut pratiquer du sport de façon compétitive. Le sport d'équipe, je trouve ça important. Le sport individuel aussi. Donc, nous, on essaie de toucher à tout. Évidemment, on n'y arrive pas, là, mais on joue beaucoup au tennis, on joue au baseball sur la plage, on joue beaucoup au basket. Mes fils, on joue au hockey. J'en ai encore un qui joue au secondaire. Et donc, on est... intéressé par le sport, on bouge beaucoup, puis je trouve qu'un corps sain dans un esprit sain. J'ai toujours pensé que c'était important.
Alors, il y a quelqu'un qui nous écrit sur la messagerie texte de quel sport vous parlez, c'est bien du pickleball.
Oui.
Alors, ça, vous allez voir, là, allez peut-être sur Internet, allez taper ce mot-là, là, puis oui. Ça ressemble en beaucoup plus petit, comme M. Forcier a dit, à un terrain de tennis.
Oui.
Et surtout, quand on frappe la balle, c'est pas du tout la même chose non. que quand on frappe au tennis. Il faut vraiment bien s'ajuster quand on part d'un terrain de tennis oui. à un terrain de pickleball.
Mais c'est beaucoup plus facile. La
oui.
raquette est beaucoup plus petite. De toute façon, les gens
oui.
pourront le voir. La raquette
oui.
est beaucoup plus maniable. C'est une balle qui rebondit beaucoup. C'est très rapide. C'est très facile à jouer, donc c'est très convivial. C'est un peu ça, là.
Si je vous demandais, si vous aviez un sport à choisir, là, celui que vous préférez le plus au monde, ce serait lequel?
Pour jouer, j'aurais voulu jouer au baseball. Pour faire de l'argent, j'aurais voulu jouer au basket.
Oui, parce que l'argent est pas mal là dans NBA.
C'est incroyable. Les salaires qui se sont payés cet été, ben vous le savez, là, vous avez des enfants, vous aussi. Maintenant, nos enfants... Contrairement à nous, nous, on s'intéressait, tel joueur avait signé avec telle équipe, l'impact. Maintenant, nos enfants, puis on parle pas d'enfants, là, on parle d'enfants qui, des ados, là, 14, 15 ans, parlent d'argent comme nous, on en parle. Là. Ah, il va faire 8 millions sur 5 ans, ou il va faire 45 millions. Au basket, c'est devenu vraiment vertigineux, l'augmentation des masses salariales. Des joueurs qu'on considérait être de bons joueurs gagnent 20 millions, 25 millions par année. Des joueurs, pas d'impact, mais des joueurs importants pour des équipes qui sont là en appui de d'autres joueurs qui gagnent 35 et 40, et même jusqu'à 60 millions par année. Anthony Davis vient de signer un contrat, et je pense qu'il va faire plus que autour de 60 millions par année avec les Lakers. LeBron, lui, a accepté de prendre une coupure, parce que LeBron, il fait tellement d'argent, pour permettre aux Lakers de pouvoir jouer avec la masse salariale puis payer un gars comme Davis 60 millions. Mais au basket, c'est devenu démentiel, la valse des salaires.
Alors, vous me voyez venir. On fait beaucoup état d'un autre match préparatoire de la NBA ici au Centre Bell le 12 octobre prochain. Est-ce que Montréal pourrait accueillir une équipe de la NBA et soutenir de telle masse salariale?
Oui. Ça, j'avais pas de doute quand j'ai commencé à penser à ça il y a 5-6 ans. Puis, j'en ai encore moins aujourd'hui.
Pourquoi?
Parce qu'on a créé beaucoup de richesses dans notre milieu. Il faut diviser la question en deux. Est-ce que quelqu'un a les moyens d'acheter une équipe de basket puis l'amener à Montréal? Ça, c'est la première question. La réponse, c'est oui. Est-ce que cette personne-là habite à Montréal aujourd'hui? Peut-être pas. Pas parce qu'il n'y a pas l'argent à Montréal, il n'y a peut-être pas dans ces sphères de richesse à Montréal un intérêt pour le basket. C'est différent, là. Mais il n'y a pas assez de franchises de basket, puis il y a plus de monde qui veulent une franchise de basket que pour quelqu'un qui voudrait être propriétaire d'une équipe de basket, même si cette personne-là habitait Daytona, la possibilité d'avoir une équipe à Montréal et d'en être propriétaire, ce ne serait pas un problème. Il y a beaucoup de propriétaires de la NBA à l'heure actuelle qui n'habitent pas ou ne sont pas de la ville de l'équipe dont ils sont propriétaires. Ça, c'est une chose. Est-ce qu'on a assez de richesses à Montréal, collectivement, là, tous ceux qui nous écoutent, dans nos ménages, avec nos salaires, avec tout ce qu'on a à payer, pour appuyer une deuxième équipe professionnelle? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Bien, parce qu'il s'est créé beaucoup de richesses, un. Deuxièmement, les gens qui vont voir les Canadiens, il va y avoir un recoupage. Mais il y a beaucoup de gens, de nouveaux spectateurs, une nouvelle clientèle pour le basket. Je vous l'ai d'ailleurs déjà dit, je pense, dans une autre conversation. Il suffit d'aller au Centre Bell durant un match préparatoire de la NBA. Vous qui êtes habitué au Centre Bell puis le hockey, allez-y. Vous allez voir, juste visuellement, c'est très différent. Il y a beaucoup plus de couleurs, il y a beaucoup plus de minorités, il y a beaucoup plus de gens qu'on ne verrait pas nécessairement au hockey.
Mais pourquoi ça pourrait pas être la propriété de gens riches d'ici qui amènent cette équipe-là? Parce que vous me dites, cette personne-là va peut-être être une personne de l'extérieur,
oui,
avec des gens riches d'ici qui seraient ici finalement pour gérer le club, oui, mais l'argent viendrait pas d'ici.
Ben, je vous dis, j'ai voulu diviser votre question en deux parce que pour moi, si vous me dites, d'un matin, vous pouvez avoir une équipe de basket à Montréal et la propriétaire, ce serait une femme, puis elle habiterait le Montana, moi, ça me dérangerait pas. Parce que d'abord, il faudrait qu'elle fasse un deal avec les Canadiens pour le building. Mmh. Donc, je saurais que M. Molson puis Mme Bélanger seraient impliqués d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'ils seraient des partenaires minoritaires. Là, on donne les hypothèses.
Oh, oui,
mais il n'y a personne qui achèterait une équipe pour l'année à Montréal sans avoir un deal sur le building. Puis, ils ne construiraient pas un autre building. Il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place au centre-ville. Donc, moi, je trouve mon réconfort là-dedans. Quelqu'un qui voudrait réussir, même s'il venait du Montana, cette personne-là voudrait trouver des repères au Québec pour s'asseoir au Québec. Comme l'avait fait George Gillette en engageant Pierre Boivin. Les gens sont pas stupides. Ils veulent que ça réussisse. Alors, c'est pour ça, pour moi, la propriété de l'équipe, est-ce que je préférais que ce soit vous? Est-ce qu'une personne du Montana? Oui, mais je m'empêcherais pas, je bouderais pas mon plaisir parce que ce serait quelqu'un du Montana si je peux avoir une équipe de basket.
Michael The Bird Fortier. Oh,
oui.
Je touche quelque chose là.
Oui.
Il y a quelqu'un qui a joué avec vous, Midget.
Oui.
Jean Sans Façon.
Oui. Salut, Jean.
Alors, The Bird.
Oui, il y avait un lanceur pour les Tigers de Détroit qui s'appelait Mark Fidrich.
OK.
Dans les années 70. Et j'étais lanceur, j'ai grandi à Québec, puis j'étais lanceur dans notre équipe. Et lui, il avait comme un tic quand il lançait. Il faisait quelque chose avec son gant et sa main, puis j'avais choisi de l'imiter.
Ah.
Et lui, son prénom, c'était The Bird Fidrich. Alors
de là.
Mes copains à Québec m'appelaient The Bird.
Étiez-vous bon?
Ordinaire.
Là, vous êtes
humble. Non, je ne suis pas humble, c'est la vérité.
Oui.
Un gars comme Sans Façon était 100 fois meilleur que moi. Mais j'adorais le baseball. J'ai passé des étés exceptionnels, des entraînements tous les jours. À l'époque où le baseball, c'était le soccer d'aujourd'hui.
Mm-hmm.
Tous les terrains de baseball étaient occupés partout, dans nos villes, dans nos villages. Il y avait des tournois partout. C'était vraiment exceptionnel. Donc, j'ai vraiment de très, très bons souvenirs. Mais j'étais ordinaire. J'étais très bon défensivement. Mais au bâton, j'ai jamais vraiment réussi à percer.
Vous avez parlé de France-Margaret Bélanger tantôt. Il y a des gens sur la messagerie texte qui nous demandent qui est Mme Bélanger. C'est la présidente sport et divertissement chez le groupe CH. En fait, elle s'est jointe à l'organisation à titre de vice-présidente principale et chef des affaires juridiques en 2013. Alors voilà, c'est le bras droit finalement de monsieur Jeff Molson. On a beaucoup parlé de basketball tantôt.
Mm-hmm.
Vous avez parlé de ça vous dérangeait pas de voir une dame ou un homme d'affaires du Montana arriver ici et être à la tête d'un groupe à qui pourrait appartenir une équipe de la NBA.
Oui. Mais en passant, je pense la même chose pour le baseball, en passant là. Parce que moi, tu sais, on est beaucoup qui ont aimé que le baseball revienne à Montréal. Puis c'est une équipe venait à Montréal, maman, évidemment, le baseball, on parle pas des mêmes prix puis des mêmes dépenses, là, mais quand même, si on avait une équipe à Montréal qui appartenait à une riche personne de New York, moi, je m'en offusquerais pas. Moi, je veux qu'on investisse dans l'équipe, c'est sûr, là, je veux pas revivre David Sanson et puis...
Monsieur Lauria,
on se comprend. Mais ça, c'était, selon moi, l'exception à la règle. Et...
Mais le basket est plus proche de revenir à Montréal, d'arriver à Montréal que le retour du baseball.
Je peux pas vous le dire, je sais pas.
Non?
Non, je sais pas. Mais, le baseball, on est quand même venu proche. Hein, les efforts qu'a fait M. Bronfman avec M. Boivin, justement.
Mais là, c'est mort.
Ben, je sais pas, faudrait que vous leur demandiez. Moi, je sais pas si c'est ça
non, mais
ça
vous,
m'apparaît pas.
Vous, dans
ça
le monde,
pas,
vous, dans le monde des
parler.
Affaires, vous en entendez pas
non.
parler?
Non.
Mais vous entendez plus parler d'une équipe de basket à Montréal?
Ben, c'est-à-dire, j'en entends plus parler. Les gens m'en parlent plus, mais le problème avec le basket, c'est qu'il y a beaucoup plus de villes et de gens intéressés à acquérir une franchise de basket, incluant au Mexique. Donc, on a beaucoup de concurrents quand on... Si on se dit que la NBA va offrir deux franchises d'ici 5 ans, il n'y a pas juste deux villes.
Il y a plusieurs.
Il y en a en masse. Donc, c'est ça notre concurrence. Au baseball, je dois avouer que les changements de règlement de cette année ont beaucoup amélioré. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi ce qui s'est passé au baseball, mais les matchs se jouent plus rapidement, les assistances sont à la hausse, il y a moins de critiques sur les médias sociaux, il y a des belles courses dans plusieurs divisions, même pour les meilleurs deuxièmes.
On a ajouté des équipes pour les séries.
Des équipes, c'est ça. Et le baseball là, semble vivre une petite période là, de résurrection, parce que pendant longtemps, c'était pas le cas, là. Mais encore aujourd'hui, je pense que si le baseball majeur annonçait qu'il mettait deux nouvelles équipes à la disposition de villes, il y aurait beaucoup moins de monde intéressé qu'au basket.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord. 30 équipes au basket?
Oui.
Vous parlez d'une expansion d'ici à peu près 5 ans?
Ben, je pense que oui. Je pense
31-32.
Pas 31, 32.
Oui. Bon. Mettons Montréal, Seattle, Las Vegas, Mexique, vous avez dit?
Oui, Mexico est très intéressé.
Quelle autre ville qui a...
Ben, pensez à toutes les villes dans le Midwest aux États-Unis où il y a des équipes de collège, équipes universitaires dans le Kansas, je veux dire, des endroits qui ont des amphithéâtres qu'on connaît pas ici. Parce que nous, on pense juste à des villes comme Chicago, New York, Los Angeles, mais il y a des amphithéâtres de basket à Syracuse, New York, où on peut loger 25 000 personnes.
Alors, si on ajoute toutes ces villes puis qu'on se dit qu'il y a une expansion, mettons d'ici 5 ans, mettons en 2028-2029, on tombe à 32 équipes, on donne les deux équipes à Seattle puis Las Vegas.
Oui.
Donc, est-ce qu'il pourrait avoir une autre expansion 5 ans plus tard ou faudra attendre 5 ans ou 10 ans plus tard?
Très bonne question. Moi, je pense que l'expansion, si on n'est pas de la prochaine, la suivante, elle va être... plusieurs années par après, parce que le commissaire Adam Silver, c'est un homme qui c'est un homme super intelligent, mais il prend ses précautions, il s'avance jamais. Lui, il veut que le produit soit parfait, il veut pas diluer son produit. Donc pour lui, c'est plus important d'avoir un produit de très grande qualité sur le terrain que d'offrir 4 nouvelles équipes. Obtenir, mettons, 3 milliards par équipe, donc 12 milliards de dollars qui diviseraient par toutes les équipes qui sont là maintenant, puis diluer le talent. Lui, ce qui est le plus important pour lui, pour la grande majorité des propriétaires, c'est de garder le produit
à la hauteur
de ce qu'il est maintenant. C'est vraiment un produit exceptionnel. Je veux dire, c'est difficile pour ceux qui ne suivent pas la NBA, là, mais... Il y a 12 joueurs, il y a 5 joueurs qui partent le match. Des fois, les équipes vont jouer avec un banc de 3 joueurs, 4 joueurs. Il y a peut-être juste 9 joueurs qui vont jouer. Alors, vous pouvez vous imaginer quand vous avez 6-7 stars, ils vont jouer les 6-7 stars contre les 6-7 autres stars de l'autre équipe, puis ils sont 5 contre 5. Donc, inévitablement, il va y avoir des jeux spectaculaires sur le terrain.
Et Montréal serait en mesure de soutenir une équipe de sport professionnel et ça marcherait et le building serait plein.
Je suis convaincu de ça. Absolument. Absolument. Là, je ne sais pas, là, les billets pour le match Oklahoma-Détroit, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont être en vente, mais je vous gage que ça va se vendre vite.
Ben, écoutez, je vais vous dire ce que j'ai reçu, moi, OK? J'ai reçu, il y avait, semble-t-il, une vente réservée à ceux qui s'abonnaient sur l'application NBA Canada.
Ouais.
Eux, ils avaient le privilège depuis ce matin d'acheter des billets pour ce match-là, ouais. Alors que sur le site, par exemple, de d'Evenco ou du Centre Bell, on annonce la vente pour demain. Là, ce qu'on me dit, puis je vous le lis en même temps, là, c'est qu'on me dit que il reste tout est presque vendu, là. En ce moment, tout est presque vendu. Ça s'est vendu comme ça. Comme la dernière fois, comme l'année passée.
L'année passée, c'était les Raptors contre les Celtics.
Oui.
Là, on a deux clubs qui n'ont pas rapport.
Oui, mais c'est Lugansdor quand même.
Non, je comprends. Mais je suis d'accord avec vous. Ça vous démontre la force.
Mais ça, c'est un match préparatoire, M. Fortier.
Oui, je sais.
Moi, là, je vais vous dire l'impression que j'ai. J'ai comme l'impression, puis je ne veux pas être défaitiste, là, mais j'ai comme l'impression que Montréal... C'est un marché de matchs hors concours. Match hors concours pour la NBA. Ouais. Match préparatoire pour les Blue Jays. Mm-hmm. On remplit le stade. Le monde est heureux. Puis après ça, le monde s'en retourne chez eux. T'as pas d'attache, t'as pas rien. Puis c'est correct comme ça. Je dis pas que c'est mauvais. Mais est-ce qu'on est une ville qui est capable d'assumer toutes ces dépenses reliées au sport professionnel?
On pourrait pas, Yannick, assumer toutes les autres villes. Non, mais sérieux, là, c'est parce que c'est important ce que vous dites, parce que les gens qui nous écoutent, qui disent, ben, coudonc, on est-tu moins riche que les autres? Je m'excuse, là. Quand on regarde toutes les agglomérations en Amérique du Nord, puis on compare Montréal, compare-nous pas à New York, Chicago, LA, San Francisco, mm-hmm. mais il y a plein d'autres villes, là. Milwaukee a une équipe
oui.
de basket.
Oui.
OK? Pittsburgh a une équipe de hockey.
Oui.
A une équipe de football.
Oui.
Puis a une équipe de baseball.
Exact.
OK? Je pourrais continuer, là. Je la connais par cœur.
Oui,
la
oui.
liste.
Oui, oui.
Je connais, pas par cœur, là, mais j'ai déjà analysé la force de frappe monétaire de chacune de ces agglomérations par rapport à Montréal. Non seulement ça se ressemble beaucoup, mais Montréal, au niveau de sa force économique, dépasse plusieurs villes qui ont plus qu'une équipe. Certaines en ont quatre. Alors, arrêtons de penser qu'on n'a pas les moyens, là. C'est pas vrai.
OK.
Le consommateur, il va. Mais je veux juste
okay, oui.
Le consommateur, c'est lui qui va régner là-dedans.
Oui.
OK? Puis le consommateur, vous parlez de match hors concours. Moi, je pense que la NBA, vous l'analysez du mauvais sens. C'est une expérience. Ceux qui ont vu un match de la NBA savent que c'est une expérience.
J'en ai vu un à Madison Square Garden au mois d'avril l'année passée, le dernier match des Knicks contre Bénédicte Mathurin.
Oui.
Je suis pas un fan fini de basket. J'aime le basketball parce que je travaille là. Ça a été une expérience extraordinaire.
Est-ce que vous retourneriez?
Tout à fait.
Okay.
C'est ça. Tout à fait.
Et tu n'as pas besoin d'avoir 25 000 personnes qui disent « je vais acheter un billet de saison ». Quand tu as un bassin de population comme on a à Montréal, n'oubliez pas, là, on peut ratisser large. On ratisse le Vermont, on ratisse le New Hampshire, on ratisse Upstate New York. Ces gens-là, ils sont plus proches d'ici. Mmh, sont allés au match de Toronto, vous allez voir, il y a beaucoup d'Américains qui sont là. Ils sont pas 40 000, mais il y a... Donc, quand on ratisse, il y a 3 millions, 3 millions et demi, pas loin de 4 millions de personnes qui peuvent venir à Montréal... faire un voyage en auto de moins de 3 heures, passer une nuit à Montréal, voir l'équipe de Montréal jouer contre les 76ers. C'est sûr. Moi, je suis convaincu que ce serait un succès monstre.
OK, mais moi, mon impression, puis c'est peut-être encore une mauvaise impression, mais c'est ça mon impression. Okay. C'est que quand il va y avoir l'expansion, vous dites qu'il y a de la richesse ici.
Oui.
OK. Y a-tu un homme ou une femme d'affaires qui peut dire quand ça va arriver, là, le processus d'expansion, ça coûte... Combien ça coûte une expansion? 2 milliards? 3 milliards? Non, 4 milliards?
Ça se peut que ça coûte entre 3 et 4.
OK, 3-4 milliards.
Ça, c'est juste le papier, là.
OK, juste le papier.
Ouais.
Mais y a-tu quelqu'un qui peut lever la main ici, qui est assez riche pour dire... Jean Leduc, là, qui est multimilliardaire, un homme d'affaires, là, ou Jeannette Leduc, une femme d'affaires, multimilliardaire, qui capote sur le basketball, qui peut dire, OK, moi, M. Silver, je vais vous faire le chèque de 4 milliards, là, je la veux, l'équipe.
Okay.
Quand Adam Silver va l'avoir, il va dire oui, on le donne à Montréal. Ici, j'ai comme l'impression que un homme ou une femme d'affaires veut, mais, ouais, mais là, ça prendrait peut-être le gouvernement. Ça prendrait peut-être l'aide gouvernementale, puis ça prendrait peut-être la ville, puis ça prendrait... Comprenez-vous ce que je veux dire? Je trouve que ça aboutit jamais.
Non, non, mais il ne serait pas question d'aide de ville. Là. Si Montréal avait une équipe de la NBA, il n'y aurait personne qui serait à genoux devant le bureau du premier ministre ou qui irait voir la mairesse. On parle de gens qui ont beaucoup d'argent. Je reviens à ce que je vous disais au début. Il faut vraiment faire une grande distinction. Quand je vous dis que c'est créer de la richesse au Québec, moi, je vous parle de la richesse individuelle.
Mm-hmm, okay? Mm-hmm, ouais.
Mais je vous parle aussi d'une richesse collective où on peut se permettre d'aller voir 10 matchs de la NBA par ouais. année et 10 matchs des Canadiens. Je sais que c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des gens qui nous écoutent, qui ont peut-être de la misère à arriver, puis je comprends
oui,
très bien.
Bien
moi, on me pose une question. Est-ce que moi, je pense
oui.
que dans le bassin,
oh oui.
le rayon d'action du Grand Montréal, est-ce qu'on pourrait faire vivre et le basket et le hockey? Moi, je vous dis, non seulement on peut vivre et le basket et le hockey, moi, je pense qu'on aurait pu faire vivre le baseball aussi.
Je me questionnais sur la faisabilité d'accueillir une équipe de la NBA. Il y a un message sur la messagerie texte. Michael Fortier, Monsieur Fortier, attendez un petit peu. Monsieur Fortier est très enthousiaste, mais on perd notre baseball, notre équipe de la Ligue nationale à Québec. On est capable d'accueillir une équipe de la NBA. Soyons sérieux.
Je comprends la réflexion. L'équipe de baseball, moi j'étais là le soir qu'on l'a perdu en 2004, en septembre 2004. Et je pense pas que c'est fair de dire qu'on l'a perdu parce qu'on n'était pas capable de la soutenir. Ceux qui, comme moi, avaient des billets de saison puis qui se rappellent des saisons de misère qu'on avait au Stade Olympique, à un moment donné, quand tu as un produit, que ce soit le baseball ou que tu vendes des T-shirts ou que tu vendes des services de radio comme ici à la station, si tu ne t'organises pas dans le sens du monde pour créer de la fidélité, pour que les gens veuillent acheter des T-shirts, veulent écouter l'émission de sport ce soir ou demain, ben il va arriver ce qui est arrivé aux expos, c'est que ta clientèle va cesser de venir et tranquillement, ça va être une descente aux enfers. Le stade était vide, pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour le baseball, parce que les gens ne voulaient plus appuyer des propriétaires qui se moquaient des Montréalais, qui réinvestissaient plus dans l'équipe et qui jouaient dans un stade qui était plus apte. On le sait aujourd'hui, imaginez-vous, on le savait en 2004. Mm-hmm. 2004, c'est il y a 20 ans. En 2004, il n'était pas apte. Tu sais, pour le baseball, c'était pas un stade où tu voulais aller. Tu allais voir les expos, mais il n'y avait aucun plaisir.
Mais ça, M. Fortier, on l'a détruit à gauche et à droite, le Stade olympique, honnêtement. 94, tout le monde allait au stade, là, on s'entend? J'y allais moi-même en pleine course au championnat.
Oui.
Puis il n'y avait pas de problème, puis la bière n'était pas chaude, les hot dogs n'étaient pas froids, puis le popcorn n'était pas... Tu sais, vous comprenez? Je trouve qu'on l'a pas mal bâché, le Stade olympique, à l'époque.
Oui, puis non, parce que quand vous comparez, même en 2004, si vous regardiez, moi, je faisais un voyage avec les expos sur la route avec des amis tous les étés.
Mm-hmm.
Donc, si elle est sur la côte ouest. Alors, pendant que les expos étaient encore à Montréal, le nouveau stade à Seattle avait été construit.
Mm.
Pendant que les expos étaient encore à Montréal, Camden Yards avait été construit. Je pourrais donner toute la liste de stades absolument capotants qui se construisaient alors que nous, on jouait encore. Je comprends votre 1994. Moi aussi, j'étais là. Il faisait beau. Le toit était ouvert, c'était magnifique, mais invariablement, on n'aurait pas joué là pendant 40 ans.
Non.
Même les Blue Jays, cette année, ils ont investi dans le stade, ils ont changé ceci, cela. Mais Rogers, je pense qu'il a pensé, il a songé longtemps à peut-être construire un autre stade, mais quand ils ont regardé le bas de la feuille, ils se sont dit « ça vaut pas la peine, on est mieux de faire de la cosmétique à l'interne ».
OK, revenons à la NBA.
Oui.
Pourquoi la NBA voudrait venir ici à Montréal?
Ça, c'est vraiment la question. Hein? Puis ça, c'est le pitch de vente. Surtout quand tu es confronté à Seattle, qui a un nouveau stade, dont les propriétaires du stade, du nouveau l'amphithéâtre là-bas, c'est des amis de la Ligue. Quand tu fais face à Vegas, qui connaît un succès monstre dans tous les autres sports, alors, faut que tu joues la carte d'exploiter un nouveau marché. Le Canada a juste une équipe. Le Canada a déjà eu deux équipes. Il y avait une équipe à Vancouver. Puis elle a quitté il y a plusieurs années. Donc, tu exploites un nouveau marché. Tu crées une rivalité avec Toronto. Tu crées une rivalité sur la côte Est avec des équipes et des villes avec lesquelles tu as déjà une rivalité au hockey. Boston, Philadelphie, New York. Et la Ligue cherche à long terme à développer des antennes internationales et des antennes aussi avec la France ou l'Europe. On a parlé du Mexique tantôt. Venir à Montréal, pour eux autres, ça leur ouvrirait une fenêtre sur la francophonie. Le basket, vous le savez, ça se joue beaucoup en France. Le premier joueur qui a été drafté cette année est un Français.
Exact.
D'accord? Alors, il y a beaucoup d'arguments qui militent en faveur de Montréal. Mais je suis assez objectif. Je suis assez objectif et réaliste pour dire que si Seattle et Vegas sont sur les rangs, Montréal va avoir beaucoup de difficultés à les accoter. Parce que c'est des nouveaux marchés. Seattle a déjà eu une équipe. Puis Vegas, comme on se disait tantôt, Vegas, c'est un endroit où les joueurs veulent aller. Et au basket, il faut se rappeler d'une chose, c'est le sport professionnel où les joueurs ont le plus grand pouvoir de tous les sports professionnels. Je ne vous dis pas que les joueurs dictent quoi que ce soit, mais Adam Silver, sur son téléphone cellulaire, il y a probablement 15 numéros là, importants. Tu sais, c'est LeBron James, jusqu'à Stephen Curry. Non, mais je suis convaincu, je ne l'ai pas vu faire. Mais
y a-tu le vote?
Il est consulte.
Y a-tu le vote?
Non. Il est consulte. Ces gens-là parlent, ils parlent à un auditoire, ils ont des millions d'abonnés sur leurs médias sociaux. OK? Je veux dire,
ils joignent des gens.
Oh my God, ces gars-là ont une force de frappe exceptionnelle.
Mais je faisais des blagues, mais vous avez des entrées, vous, dans la NBA. Là. Je veux dire, vous.
Oui, non.
Je ne dis pas que vous appelez Adam Silver à Wasteman, mais vous avez quelques contacts qui vous permettent de.
Absolument. Puis les Canadiens m'ont beaucoup aidé là-dedans. Monsieur Molson et Madame Bélanger ont été des collaborateurs dans mes efforts. Et c'est une affaire d'équipe, mais je pense qu'il faut être réaliste aussi. Le projet de basket à Montréal, ça demeure un projet qui est rempli de défis. Selon moi, je vous le répète, c'est pas l'exécution. Une fois qu'on a l'équipe, c'est avoir l'équipe. En raison de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la concurrence auquel on fait face.
Est-ce que Montréal, c'est une ville de sport ou une ville d'événements sportifs?
Les deux.
Est-ce que Montréal serait capable...
Les deux.
Serait capable d'accueillir une équipe de la Ligue nationale de hockey, du baseball majeur, la NBA?
Oui, ça joue. Moi, je pense que oui.
Puis il m'en manque un autre.
Ben, la NFL. On a déjà les Alouettes. Je pense que oui. Absolument.
Oui?
Oh oui.
Il y a un bassin pour ça. Là.
Ben oui, un bassin.
Mais ça va prendre des infrastructures.
Ça va prendre des infrastructures. Mais là, on se pose des questions. Hey, là, les terrains de baseball, je pense qu'on les a perdus. Donc, ouais. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait même avoir une équipe. Et tantôt, vous parliez, est-ce que Montréal, c'est une ville d'événements sportifs? Et le Grand Prix, c'est un bon exemple. Tu sais, si Grand Prix, on essaie de l'avoir 5 Grands Prix, pas sûr qu'on aurait 100 000 personnes à 5 Grands Prix. Là.
Mm.
Mais le Grand Prix, moi, je suis toujours épaté par le nombre de personnes, et j'en fais partie, qui y vont et qui ne suivent pas ça. Et moi, j'en fais partie.
Et c'est de l'événementiel.
Absolument.
Moi, parce je vois que là, c'est un événement d'une semaine.
Oui. Moi, je vais là, puis je rencontre des clients, des amis, des gens que je vois juste là, année après année. Mais demandez-moi pas qui est dans la grille de départ après les 3 premiers, j'en ai aucune idée.
Il y a quelqu'un qui nous écrit « Merci pour le retour de la F1 à Montréal ». Vous avez été un grand artisan pour de ça, vous? La relance du Grand Prix du Canada?
Ben, grand artisan. J'ai participé, oui. Effectivement.
Vous avez négocié?
Oui. Oui. Ouais, j'ai eu du fun avec Ecclestone. Ça, en soi, c'est une autre émission, mais c'était...
C'était difficile?
Oui. Mais en bout de ligne, on l'a ramené, puis les gouvernements ont été...
Est-ce que ces gens-là respectaient Montréal, où ils savaient que les gens d'ici le voulaient tellement... Il vous tenait un peu, non?
Il nous tenait. L'avantage qu'on avait, c'est que les pilotes et plusieurs des écuries adorent Montréal. Mm-hmm. C'est encore le fait.
Oui.
Et pour eux, ils n'ont pas laissé Ecclestone. Ecclestone, je pense qu'il nous aurait passé sous le corps. D'ailleurs, il l'a fait. Il nous a enlevé la course en 2009, pour nous faire chanter. On n'a pas chanté. On n'est pas resté silencieux. On lui a livré quelques dollars, j'en conviens, mais beaucoup moins de dollars qu'il en souhaitait, et beaucoup moins de dollars qu'il recevait de d'autres villes qui faisaient chanter. Et on a réussi à faire ça parce qu'il y a eu, je vous dirais, une solidarisation. Beaucoup de pilotes, comme je vous dis, des écuries l'ont appelé. Puis nous, on a travaillé en arrière-scène pour que ça se passe. Les gens lui disaient, ben écoute, il faut qu'on soit à Montréal. C'est notre seule course en Amérique du Nord. À l'époque, c'était vrai. Là. Il n'y avait pas de Miami, il n'y avait pas d'Austin, puis il n'y avait pas de Vegas. Donc, on a réussi de cette façon-là. Puis je vous dirais qu'avec Ecclestone, avec les années, on a appris à se connaître. Puis on a renégocié 2 fois après, avant qu'ils vendent. Puis les 2 autres fois, on a renégocié des prolongations. Ça s'est vraiment très bien passé. Il n'y a pas eu de menace. On a ajouté quelques années au contrat. Puis on a à peine changé les modalités financières. Donc, Montréal a vraiment un bon deal.
C'est une de vos fiertés, ça, d'avoir réussi ça? D'avoir réussi à garder...
Je vous dirais que je suis...
Ben, d'où vient,
je suis content d'avoir.
Fier.
J'ai eu la chance de participer. Je venais de perdre mes élections. Puis, tout ça se passait. Puis, le Harper, il m'a dit, ben, écoute, là, tu t'en vas. Écoute, peux-tu t'occuper de ça pendant que tu t'en vas? Essaye d'amener ça le plus loin que tu peux. Alors, je suis parti avec ça. Je venais juste de perdre l'élection. Puis, à un moment donné, j'ai eu 3-4 meetings avec Ecclestone. J'ai dit à Harper, puis je suis arrêté à Québec. J'aurais dit, ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, là? Mais il a dit, ben, écoute, as-tu une job, là? Tu fais quoi, là? Je Là, j'ai rien. Bon, ben, continue. J'ai continué. J'ai eu du fun.
Angélie qui pose la question. Serait-il possible un jour où est-ce qu'il y a de l'intérêt pour créer à Montréal un conglomérat sportif basé sur le modèle de MLSI à Toronto?
Pour l'instant, non, parce qu'on a juste une équipe. Elle appartient à la famille Molson. Mais si on avait une deuxième équipe, une troisième, évidemment, si les Molson étaient impliqués, ça pourrait ressembler à ça, mais ça prendrait des intérêts corporatifs, effectivement, là, mais je ne l'exclus pas.
Je crois qu'avant d'amener une équipe de la NBA, il faudrait que la nouvelle Ligue élite de basketball du Canada fonctionne bien.
D'abord, c'est bien qu'on en parle, parce que cette Ligue-là, je trouve qu'elle va bien. Je pense que les assistances au stade de Verdun, là, à l'Auditorium Verdun, je pense qu'ils ont eu des bonnes assistances dans la dernière année, mais je suis pas sûr que l'une est une condition à l'autre, là, bien honnêtement. Mm-hmm. Puis au contraire, je dirais que si on avait une équipe de la NBA ici, ça aiderait probablement à mousser encore plus le basketball amateur et semi-professionnel.
Plus tôt dans l'émission, vous parliez, je me fous un peu que ce soit un homme ou une femme d'affaires du Montana qui arrive ici puis qui se porte acquéreur d'une équipe de la NBA. Il y a quelqu'un qui écrit 100% d'accord. Je me fous, c'est qui le propriétaire? Apportez-nous une équipe de la NBA et ou du baseball majeur. Le Canadien nous a habitués à la mentalité locale, mais ultimement, si on veut faire partie des grandes ligues, il faut financièrement être capable de rivaliser avec les grands circuits et on ne peut le faire malheureusement. Alors, travaillons en équipe pour que ça arrive.
Oui, mon Dieu, cette personne-là l'a mieux exprimé que moi. C'est parfait.
Mais est-ce que les Blue Jays pourraient revenir pour des matchs préparatoires au printemps 2024?
Ben, j'espère. Moi, c'est pas moi qui organise l'horaire des Blue Jays. J'espère que oui. Et si oui, je vais y être.
Parce qu'on les amenait ici dans l'espoir de raviver la flamme du retour des Expos, on s'entend?
Oui, mais je veux dire, les Blue Jays sont seuls au Canada, donc pour eux, c'est important pour eux de garder le marché de Montréal, je vous dirais, animé par la flamme des Blue Jays. Je comprends que ce n'est pas les Expos, mm-hmm. mais si vous faisiez un sondage à Montréal, les gens qui suivent le baseball, est-ce qu'ils prennent pour les Red Sox, est-ce qu'ils prennent pour les Blue Jays, est-ce qu'ils suivent les Yankees? Moi, je vous dirais que 9 sur 10 suivent les Blue Jays.
Bravo, M. Fortier. Ça fait du bien un peu de positivisme. Je suis d'accord, il faut voir grand. Nous ne sommes pas nés pour un petit pain. Alors, voilà pour le commentaire. Est-ce que c'est possible pour plusieurs grandes compagnies ici de se regrouper et d'acheter une concession? Ça deviendrait une co-entreprise. Est-ce que c'est faisable? Exemple, Patrick qui dit Québécois, Métro, Desjardins, Garda World se réunissent et le font.
Ça, le modèle a déjà été testé. C'était le modèle des Expos avant qu'ils vendent à Loria. C'était ça le modèle. Mm-hmm. Il y avait un groupe d'entreprises de Montréal qui s'étaient réunis pour sauver les Expos. Moi, je pense pas que ça va arriver parce que quand tu es rendu à devoir réunir 14 personnes pour boucler la fin de mois, mm-hmm. c'est que tu as un problème. Moi, je pense que c'est mieux de travailler avec un propriétaire unique et de trouver, si ce propriétaire-là n'est pas d'ici, de trouver quelqu'un d'ici, un repère d'ici. Et je reviens au Molson, je reviens au Canadien. Moi, je verrais très bien un tandem, si c'est un étranger qui amène le basket, où les Canadiens sont impliqués. Il y aurait un rôle très important dans l'équité de l'entreprise, mais aussi dans l'exécution, la vente de billets, toute la mise en marché de l'équipe. Les Canadiens pourraient rendre de grands services à un propriétaire étranger.
Il y a quelqu'un qui nous écrit, je pense que la NFL est plus proche que le retour des Expos. 9 parties à la maison seulement, c'est plus rentable. NFL, ça serait-tu rentable ici? Ça prend un nouveau stade.
J'en ai aucune idée.
Ça prend un nouveau stade.
J'ai pas assez de connaissances sur la profondeur. Ben, je vois quand même que les Alouettes sont populaires. Mais si la NFL venait à Montréal, est-ce qu'ils accepteraient de jouer dans le stade actuel? Je ne sais pas. Effectivement, s'il y a juste 9 ou 10 matchs, ça change la donne. Mais encore là, la NFL, si elle agrandissait les cadres, moi, je vous garantis que c'est la même affaire que la NBA. Il va y avoir tellement de villes aux États-Unis qui vont s'intéresser à avoir une équipe de la NFL que ça va être difficile pour Montréal de rivaliser avec elle.
Il y a quelqu'un, et ça c'est très très drôle, Michael Fortier, je ne connaissais pas cet homme, mais il m'aurait fait voter fédéral pour la première fois de ma vie. Je l'adore, c'est écrit Sean.
Sean? Je sais pas c'est qui.
Mais c'est un auditeur qui aime ce que vous...
Merci Sean.
Qui aime ce que vous dites.
OK, non, je comprends. Je ris parce que je m'attendais pas à ce commentaire-là.
Alors, vous avez dit tantôt la NBA, par exemple, Ça permettrait peut-être d'avoir une deuxième équipe au Canada.
Ouais.
Ça permettrait à cette équipe-là, ce circuit-là, d'élargir un peu ses horizons.
Absolument.
Quand on parle de Québec puis le retour des Nordiques,
ouais.
Es-tu viable la Ligue nationale là-bas?
Ben, vous parlez à la mauvaise personne. Moi, je viens de Québec et j'ai jamais compris pourquoi on n'a pas une équipe qui est revenue à Québec. Jamais. C'est sûr que c'est pas Montréal. Mais quand je parle de création de richesse à Québec, dans un spectre beaucoup plus petit, là, il s'est créé autant de richesses qu'à Montréal. Autant de richesses qu'à Montréal. Je suis convaincu qu'une équipe de hockey réussirait à Québec. J'en ai jamais eu de doute. Jamais. Et je trouve ça malheureux qu'il n'y ait pas d'équipe de hockey à Québec. Je trouve ça malheureux pour les gens de Québec, puis je trouve ça malheureux pour le hockey.
Pas parce que vous êtes de Québec que vous dites là, parce que vous y croyez sincèrement.
Non, je le crois profondément et je pense, je vais terminer en disant quelque chose d'un peu controversé, je n'ai jamais accepté que notre sport national, qu'on le confie à un Américain et qu'on a un Américain qui soit commissaire. Pensez-vous que la NBA accepterait qu'un Canadien soit commissaire de la NBA, que la NFL accepterait qu'il y ait un commissaire vénézuélien? Jamais. Jamais. Nous, on a accepté et aujourd'hui, il faut vivre avec les conséquences.
Michael Fortier, ça fait un plaisir. Merci. On se dit à une prochaine.
Très bien.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Ça s'était ébruité un petit peu hier en fin de soirée. Il y avait un journaliste de Phoenix qui avait rapporté la nouvelle comme quoi André Tourigny était sur le point de paraffer une prolongation de contrat de 3 saisons avec les Coyotes. Eh ben, c'est fait. On en a eu la confirmation ce matin et André Tourigny est avec nous aux amateurs de sport. Salut André, comment ça va?
Salut, Yannick. Ça va bien, toi?
Ça va très, très bien. Alors, prolongation de contrat de 3 ans avec les Coyotes. André, félicitations. Les discussions ont commencé quand?
Les discussions ont commencé pendant que j'étais à Riga, en Lettonie, là, pendant le championnat du monde. C'est, Billy est venu là, faire du scouting, puis il est venu me voir. Là, puis il m'a demandé ouais, si j'avais l'intérêt à prolonger mon contrat. Puis j'ai dit oui, fait qu'à partir de ce moment-là... Et les deux, on avait d'autres choses à faire, fait qu'on a convenu là, qu'on se parlerait après le championnat, puis on s'est parlé après le championnat. Les discussions ont été quand même assez rapides, là, fait que ça a bien été. Il y avait une couple de choses à régler avant là, qu'on finalise le contrat, fait que là, les choses ont été réglées, fait qu'on finalise le contrat cette année.
André, pourquoi ça tentait de poursuivre l'aventure avec les Coyotes de l'Arizona?
Ben, moi, je suis un gars qui est... J'aime bâtir une culture, j'aime bâtir une identité. Quand je suis allé en Arizona, j'aimais le plan. Le plan était des 2 prochaines saisons de vraiment là, aller chercher des assets. Puis quand vraiment, là, dans le fond, aller chercher des jeunes, des choix, des choses comme ça. À partir de l'année 3, à rentrer plus des vétérans de qualité puis au niveau là, du talent puis d'essayer d'entourer nos jeunes puis de commencer à vouloir progresser. Puis moi j'achetais ce plan là puis c'est exactement ça que l'équipe a fait. Puis tu vois ce qu'ils ont fait cet été, ils ont acheté des vétérans de qualité, des Bukestad, Stetcher, mais aussi des Dumba, des Kerfoot puis des Zucker puis des Dursey puis des gars comme ça. Fait que tu sais l'équipe s'en va dans la bonne direction. On est loin de la coupe Ouellet, là. Mm-hmm. On est loin d'avoir fini notre reconstruction. Tu regardes les Buffalo puis Ottawa, le temps que ça a pris, puis à un moment donné tu regardes le nombre de bons jeunes puis tu penses ok là cette équipe là est prête à gagner puis là whoop là ça va pas aussi vite. Fait que c'est pas un automatique. Là, parce que tu ajoutes une couple de vétérans que l'équipe va lever tout de suite, mais au moins on s'en va dans la bonne direction. Fait que j'aime le plan. Puis ça, ces plans-là, il y a des temps difficiles. Ça vient avec des gros challenges, ça vient avec des périodes extrêmement difficiles. Puis c'est là que tu vois ceux qui sont capables de rester avec le plan, qui sont capables de rester calmes, puis continuer à avancer dans la bonne direction. Puis Bill, les propriétaires l'ont fait. Fait il y a rien qui, il y a pas de signe qui me dit que je devrais pas avoir confiance à la direction qu'on a.
Parce que au-delà de ce qui se passe, évidemment, on en parle depuis des années. Puis je sais que t'es pas, tu contrôles pas ça. Mais au-delà de ce qui se passe sur la glace, c'est tout ce qui entoure l'équipe aussi qui peut déranger certaines personnes qui voudraient peut-être aller jouer en Arizona, mais qui veulent pas y aller parce que il y a toujours de l'incertitude, non?
Ben, je te dirais, Yannick, regarde les gars qu'on a signés, puis c'est pas des bons joueurs, puis on est une équipe en reconstruction, là. C'est sûr qu'on n'est pas pour attirer des vétérans qui veulent gagner une Coupe Stanley cette année, là. On sait qu'on n'est pas là, mais l'Arizona, c'est une place extraordinaire à vivre, une place extraordinaire à être. Je pense que l'organisation travaille justement pour aller bâtir un nouvel aréna, puis c'est ça qui va vraiment là, qui va être la pierre angulaire là, du virage de notre reconstruction, parce qu'à partir du moment qu'on va avoir un nouveau building, ça veut dire des revenus différents, ça veut dire bien des choses, fait qu'on espère que ça va aller dans cette direction-là.
Et la beauté de la chose dans ton histoire, André, c'est que ça va être ta troisième saison. La première année, tu as une fiche de 25-57. La deuxième, c'est 28-40-14. Il y a quand même eu une amélioration dans les performances de l'équipe. Ça doit être aussi motivant pour ce qui s'en vient cette année.
Mais je pense que c'est ce qui est important. Moi, j'ai toujours dit que ma job, c'est de maximiser les joueurs que j'ai. Fait que si on regarde même la première année, on regarde l'équipe qu'on avait, puis on s'est laissé à la fin de l'année avec Bill, on a regardé les joueurs individuellement, on disait, OK, quels de nos joueurs ont été en deçà des attentes? Puis la liste n'est pas tellement longue, puis à l'inverse, on était fiers de la progression puis de la performance de la majorité de nos joueurs. Fait que c'est ça ton bulletin. Puis l'année passée, c'était la même chose. On s'est assis, on a regardé notre équipe, on a dit, OK, quels de nos joueurs n'ont pas atteint les objectifs? Pourquoi, puis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, etc. Puis à l'inverse, ceux qui atteignent les objectifs, bien, c'est un constat de réussite. Fait que c'est ça ma job. Fait que cette année, on va avoir des joueurs avec de plus grande qualité. Le défi va être là de faire performer ces joueurs-là au maximum de leur potentiel.
Qu'est-ce qui a fait en sorte que la deuxième année, t'as senti une progression dans ta formation?
Bien, je pense qu'on a ajouté des jeunes de qualité. Si on regarde un gars comme Michelli, un gars comme Mosher, un gars comme Bellamacchi. Ces gars-là, c'est des joueurs de qualité. Un gars comme Jack McBain, un gars comme Barrett Hayton était à sa troisième saison. Donc là, il a pris un rôle encore plus grand. Fait que, l'ajout d'un gars comme Nick Bukestad a aidé beaucoup aussi. Un gars comme Stetcher est venu. Stetcher, c'est un bon vétéran. C'est un gars qui avait stabilisé les choses. Patrick Nemeth, il a fait une bonne job avec nous autres. Fait que, l'ajout de bons vétérans plus l'effervescence des jeunes a fait une différence. Là, je pense que ça va être on espère une progression de McBain. Hein. Gunter, Cooley va arriver. Michelli, on espère qu'il va continuer sur sa lancée. Il va très bien. Même chose en défensive avec les Valomaki, Mosher, maintenant Dursey vient d'arriver. Entouré avec des gars comme Zucker, Kerfoot, Bukestad, etc. On espère là, qu'on va aider ces jeunes-là justement à prendre leur envol, puis que les vétérans vont amener le rapport là, comme on le prévoit.
On est rendu le 23 août. André, tu quittes pour l'Arizona. À quel moment? Quittes-tu bientôt? Comment ça se passe les prochaines?
Moi, je quitte dimanche. Là. Dimanche, on fait le travail.
OK. L'Australie vous attend?
Oui.
Comment t'entrevois ça, les matchs contre les Kings là-bas?
Ben, je pense que quand tu vis de l'intérieur, à un moment donné, c'est le fun de pouvoir partir la saison avec toute notre gang. Sinon, on part vraiment là, c'est un mandat de Ligue nationale, il faut que tu amènes tes gars qui sont sur des one-way contracts, ces choses-là. Fait que c'est vraiment notre équipe. Fait que ça va nous donner une chance d'avoir une semaine d'entraînement. Parce qu'on va travailler sur notre système, notre unité spéciale, d'avoir deux games vraiment avec notre line-up de Ligue nationale au lieu d'avoir un line-up avec 8-9 vétérans de Ligue nationale. Donc, ça va me donner comme un jump start, ça va me donner un step, mais à contrepartie, là, quand on va revenir, le décalage va être énorme. Là, donc là, ça va être important de bien manager ça, de bien récupérer, de s'assurer de bien gérer justement la récupération pour nos joueurs, pour être sûr qu'on n'arrive pas dans le début de la saison qu'on soit fatigué ou qu'on se fatigue rapidement. Donc, ça a ses avantages parce qu'on a la chance de partir toute la gang en équipe.
Mm-hmm.
Mais en même temps, ça a ses inconvénients parce que on va devoir vivre le jet lag.
Est-ce que tes joueurs sont contents de s'en aller en Australie pour jouer au hockey?
Ouais, oui, ils sont contents parce que c'est unique. Il n'y a pas tout le monde qui est en Australie. Là,
non.
Il y a beaucoup de monde qui ont été en Allemagne ou à Prague ou peu importe, mais en Australie, là, c'est la façon que ça va être fait. Puis il y en a beaucoup qui, exemple, quand ils vont en Europe, ils commencent le camp d'entraînement ici, après ça, ils s'en vont en Europe, puis là, ils reviennent, c'est la saison, ou ils commencent la saison en Europe. C'est nous autres, on va avoir quand même une quinzaine de jours, hein, le moment qu'on va revenir, puis le début de la saison. Donc, ça va être un challenge, mais c'est possible.
Ça va être ta première expérience là-bas, toi, en Australie?
Oui, définitivement.
Ça doit être assez particulier d'aller d'abord là-bas, puis ensuite aller jouer des matchs contre les Kings. Puis quand vous revenez, il y a une couple de matchs pré-saison. Puis un peu comme l'an passé, je regarde votre calendrier, André. C'est un peu mieux, quoi que vous commencez vos quatre premiers matchs à l'étranger avant de disputer votre première rencontre contre les Ducks à domicile.
Oui, mais ça, c'est sûr. On est parti à l'équipe dans la ligue, on va partir 4 games sans route.
Ouais.
C'est sûr qu'on aurait mieux commencer dans l'ouest que commencer dans l'est. On arrive de l'autre bord, on va avoir 16 heures de décalage, puis là, on s'en va 3 heures plus loin. C'est pas l'idéal, mais en même temps, le monde parfait, ça n'existe pas. Là.
Non, ça c'est sûr. Hier, quand la rumeur a circulé, André, on disait, en tout cas dans l'article du journaliste, il disait on attend la mise sous contrat des adjoints avant d'annoncer officiellement. Est-ce que tes adjoints Mario, Corey Stillman, John Madden, Corey Schwab reviennent tous et ils ont tous signé une prolongation de contrat aussi ou?
Le seul qui revient pas, c'est Corey Stillman. L'année passée, il a dû quitter là, pour des problèmes, une situation de santé. Mais lui, il reviendra pas. Là. Mais c'est Blaine Forsythe qui est là. Mais toutes les autres ont été renouvelées. Là.
OK. Dernière question, André. Tu as dit l'important, c'est de progresser. Mais ultimement, comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale, ce qui est important pour une organisation, ce sont les résultats. Puis je sais que peut-être vous n'êtes pas rendu là, mais toi, personnellement, est-ce que tu t'es fixé des objectifs pour la saison 2023-2024?
Je m'en suis jamais fixé depuis 1996. Je ne penserais pas commencer cette année. Ça serait bien surprenant. Ma job, c'est de maximiser ce qu'on a. C'est pas de planifier puis d'essayer de voir dans le futur. C'est vraiment d'essayer de m'assurer que chacun de nos joueurs, que je pourrais nommer un par un, dire que, comment je fais pour aller chercher le maximum de ce gars-là. C'est quoi qui est son plein potentiel? Comment on fait pour faire sortir son plein potentiel? C'est ça, ma job. Si je me perds à essayer de voir qu'est-ce que ça va donner puis où je suis concerné avec ça, je focus pas sur la bonne affaire. C'est pas ça, ma job. Ma job, c'est pas de voir comment bon qu'on va être si tout le monde joue sur le plein potentiel. C'est de m'assurer que tout le monde joue sur le plein potentiel. Mon GM, c'est de s'assurer que le coach, il faut qu'il fasse voir le plein potentiel. Puis s'il fait jouer le plein potentiel, moi, je pense que ça, voici ce que devrait être notre équipe. Pas ma job à moi. Moi, ma job, c'est de focusser sur chacun de nos joueurs et faire ce qui est nécessaire pour eux autres de performer le maximum.
Quand tu es arrivé dans la Ligue en 2013 comme adjoint à Patrick Roy au Colorado, c'était ta première expérience dans le circuit Bettman. Là, tu te retrouves en 2023 avec un contrat de 3 ans en poche. C'est quoi la différence du André Tourigny cette année puis celui il y a 10 ans?
Oui, il y en a tellement de différences. J'ai appris beaucoup depuis ce temps-là à côtoyer Joe Sakic, Adam Foote, Patrick Roy, François Allaire, c'est des gars comme ça. Pour ça, Dave Cameron, Jason Smith, Brian Murray. Ensuite de ça, j'ai retourné junior. J'ai eu la chance d'aller au championnat mondial junior 2 fois, gagner une médaille d'or, aller au championnat du monde 3 fois, gagner 2 médailles d'or, aller dans la Ligue nationale, côtoyer des joueurs comme Strawman, Roussel, puis Andrew Ladd, il a gagné 2 Coupes Stanley. Coaché Corey Stillman, il a gagné 2 Coupes Stanley. Phil Osley, Hall of Fame. Shane Doan, même chose, un autre Hall of Fame, John Madden qui a gagné 3 Coupes Stanley, qui est avec moi dans le bureau tous les jours. C'est tout ce que tu apprends tous les jours, puis les ajustements, puis les échecs que tu as, puis les réussites que tu as, que tu apprends de tout ça, puis tu modifies, puis les histoires d'un puis l'autre, puis qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a marché pour un pour l'autre. Tu apprends. Moi, j'aime apprendre. Je suis un gars qui aime. Qui aime lire, qui aime l'histoire, ces choses-là. Fait, j'ai tellement appris de choses, je pense que je suis pas le même entraîneur du tout que j'étais à cette époque-là.
André Tourigny, prolongation de contrat de 3 ans avec les Coyotes de l'Arizona. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, aux amateurs de sport. Meilleure des chances cette année pour le plaisir de se reparler bientôt, André.
Merci beaucoup, Yannick.
Salut André. Bye-bye. Alors voilà, André Tourigny. Prolongation de contrat avec les Coyotes de l'Arizona.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.